Donc la première, c'était sur les vertus en général. Cette fois-ci, c'est sur la prudence. Vous allez tout savoir sur la prudence. Je vais annoncer mon plan pour une fois. Il y aura une introduction. Ce que n'est pas la prudence et ce qu'est la prudence. Donc deux parties dans l'introduction. Mais après, pour que vous ne soyez pas perdus, trois parties. Alors, grosso modo, c'est avant, pendant et après l'acte de prudence. Avant, pendant, après. Donc, ça fixe un peu les choses, voilà. Et puis, voilà, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Ce que n'est pas la prudence. En fait, en français, souvent, la prudence, elle n'a pas forcément bonne presse. On a l'impression que quelqu'un, il préfère ne rien faire plutôt que prendre quelques risques. Ça, c'est pas la prudence. Donc, ou le principe de précaution, c'est pas la prudence. On veut surtout, on ouvre le parapluie pour pas prendre de risques. Ça, c'est pas la prudence. Alors, ça peut faire partie de la prudence dans certains cas, mais la prudence, c'est pas surtout je fais le moins possible et puis je prends. Non, la prudence, c'est voir en fonction de la situation et tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le plus opportun de faire? Bien sûr que certaines fois, il faut prendre des risques. Mais donc ce n'est pas le principe de précaution, la prudence. Hein. Je vous cite un petit passage du pape François, qui l'exprime assez bien. Il disait ça le 6 octobre 2019, vous pourrez vérifier, si vous voulez. Ce n'est pas... Alors, il cite saint Paul d'abord. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de prudence. Paul oppose la prudence à la timidité. En quoi consiste alors cette prudence de l'esprit? Comme l'enseigne le catéchisme, la prudence ne se confond ni avec la timidité ou la peur, mais elle est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. La prudence, ce n'est pas de l'indécision, ce n'est pas une attitude défensive. C'est la vertu du pasteur qui, pour servir avec sagesse, sait discerner et sensible à la nouveauté de l'esprit. Donc la prudence, c'est la vertu de l'initiative. Hein, c'est pas la vertu où on reste calfeutré chez soi pas prendre de risques. C'est pas ça la prudence. Hein. La prudence, c'est l'homme responsable, l'homme ou la femme responsable. C'est celui qui est responsable, c'est celui qui sait répondre de ses actions. Pour dire autrement, l'homme prudent, c'est celui qui sait gérer sa vie. C'est une sagesse pratique. Voilà. Alors, je vous ai dit là, pour l'instant, surtout ce que n'était pas la prudence. Et là, je vais vous donner quatre caractéristiques de ce qu'est la prudence. La prudence, c'est d'abord prévoir. Ça vient du latin prudentia, qui est la forme contractée du terme providentia, providence. Mais c'est le substantif du verbe providere, prévoir en avant. Donc, le prudent, c'est l'homme prévoyant qui voit à l'avance. C'est celui qui voit loin, l'homme prudent. Donc, ça, c'est une première note de la prudence. Donc, c'est regarder à l'horizon et puis voir comment j'y vais après. Le cœur de la prudence, c'est discerner le bien et choisir les justes moyens. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, que citait le pape François déjà tout à l'heure. C'est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. C'est au numéro 1806 du catéchisme de l'Église catholique qui est sur votre table de nuit, donc... Ce soir, avant de dormir, vous ouvrirez 1806. Donc, vous voyez qu'elle touche deux choses dans ce que dit le catéchisme, la finalité et les moyens pour y arriver. Donc elle m'aide à trouver la mission de ma vie, les grandes finalités de ma vie et à choisir les bons moyens pour y parvenir. Voilà. Autre note, toujours dans l'introduction, sur la prudence. Qu'est la prudence? C'est la vertu du leadership, en bon français. On distingue souvent la prudence personnelle et la prudence interpersonnelle. C'est la vertu du gouvernement, la prudence. Se gouverner et gouverner les autres. C'est la manière de gouverner sa vie. Alors, vous savez que saint Thomas, un jour, arrive dans un monastère et les frères doivent élire leur prieur. Alors, ils disent, « Ah tiens, mais on a pensé à lui pour être prieur, c'est un saint, etc. » Et il prie beaucoup, tout ça. Il dit qu'il aille à la chapelle, qu'il continue à prier, mais ce n'est pas ce que j'attends du prieur. Alors, on lui dit, « Ah ben, celui-là, il est super intelligent, il fait des discours splendides. Ben, qu'il enseigne. » Et puis après, il dit, « Ah, il y a quelqu'un de prudent. Ah ben, c'est celui-là qu'il faudrait choisir plutôt. » Que l'intelligent ou l'intellectuel ou que le priant ou le voilà pour dire la vertu du gouvernement la prudence se gouverner soi-même et gouverner les autres. Et alors dans l'évangile, alors je vais pas détailler ces passages, j'en reprendrai peut-être l'un ou l'autre au fur et à mesure, mais on voit la prudence à l'œuvre dans certaines paraboles de Jésus, par exemple l'économe infidèle ou le je ne sais plus comment on appelle ça, celui qui est astucieux, il va le mettre à la porte, donc il convoque les gens. « Oh, tu dois 80 sacs de blé, tu écris 50 », comme s'il se trouve des amis pour après. Donc il est prudent. Alors après, on distinguera les vraies prudences et prudences discutables. La différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'est aussi cette sagesse, c'est une prudence. Elles avaient prévu, elles se sont toutes endormies en fait. Sauf qu'il y en a qui avaient prévu d'avoir une petite réserve pour le moment où l'époux viendrait. Ou l'homme qui veut bâtir une tour ou qui veut partir en guerre. Donc là encore, c'est une question de prudence. Avant d'y aller, je regarde si j'ai les moyens. Ou l'homme qui construit sur le roc. Dans diverses situations, on voit Jésus qui invite à la prudence. Il nous invite même à être prudents comme les serpents. Donc ça, c'est... Voilà. Ça, c'était l'introduction. Alors maintenant, la prudence, c'est avant, pendant, après. Alors avant, je vais considérer comme avant le fait de la finalité. Si vous devez aller quelque part, avant de regarder sur la carte, vous regardez d'abord le but. Ça semble assez évident. Quand vous programmez votre GPS, vous mettez d'abord le but et puis après, il vous trouve plusieurs chemins possibles, selon que vous prenez l'autoroute ou pas, ou selon que je sais pas quoi. Selon qu'il y a des. Voilà, mais ce qui est premier, c'est avant, c'est quand même clarifier la finalité. Et dans la Bible, celui qu'on appelle l'insensé, c'est celui qui voit pas le but, qui regarde pas le but, il vit comme ça, mais il n'est pas finalisé. Alors, il y a des livres de sagesse dans la parole de Dieu, hein, le livre de la sagesse, le Siracide, les proverbes. Hein, je vais pas vous citer les proverbes qui vous concernent, mais il y a des livres. Et entre autres, voilà, n'adresse pas de longs discours à l'insensé, ne va pas au devant du sot. Aux oreilles du sot, ne parle pas, il mépriserait la finesse de tes propos. C'est dans le sens de le sot, l'insensé, dans le sens de celui qui a pas de but dans sa vie finalement. Alors ça veut pas dire de pas l'aider, mais voilà. Il y en a qui connaissent peut-être la fable de La Fontaine, le renard et le bouc. Alors, il est question justement de la finalité dans ce livre. Donc, ce premier point, c'est clarifier la finalité. Mais aussi, un point qui me semble très intéressant, c'est que la finalité, ça se présente comme un bien. C'est quelque chose de désirable. Et je pense que ça, c'est un point qui est très important. Avant de démarrer, il faut avoir envie d'aller vers le but. Et c'est important pour la motivation. J'insiste un tout petit peu parce que c'est là qu'on fait la différence entre une forme de volontarisme et une vraie volonté. C'est pas la même chose de volontarisme. Le volontarisme, on se flagelle pour y aller et puis on y va à la force du poignet un peu. Tandis que justement, et saint Thomas insiste beaucoup sur la finalité, d'abord se laisser attirer par le bien, avoir envie du bien. Alors après, bien sûr, on se mettra en route, mais si on n'a pas envie, bon, on ira parce qu'il faut y aller, mais ça, c'est du volontarisme, c'est à un certain niveau. Bon, après, il y a des choses, on le fait parce qu'il faut les faire, bien sûr, mais d'abord, c'est pour ça que c'est très très important, cette finalité, c'est d'abord la voir comme un bien, quelque chose de désirable. Et d'abord, le bon Dieu, si on ne le voit pas comme quelqu'un de désirable, si on ne voit pas la communion avec Dieu comme quelque chose de désirable, ben on ne consent pas après les sacrifices qu'il faut faire pour avoir une vie chrétienne qui soit belle. Hein, il faut d'abord, il faut que le bien soit désirable. Et il faut que ça soit attirant. Et du coup, le premier acte de la prudence, donc c'est plutôt de l'ordre de la contemplation, contempler le. Et prendre le temps de s'arrêter pour voir combien c'est bien ce qu'on veut atteindre. Si on n'est pas convaincu que c'est bien, on n'aura pas les forces au bout d'un moment. La motivation, elle va tomber. Hein? Et ça, c'est du coup, c'est quand même avant de s'engager dans l'action, c'est déjà d'avoir bien conscience de pourquoi je fais les choses. Vous vous rappelez, c'est classique, c'est quelqu'un qui regarde des gens qui transportent les pierres pour construire la cathédrale. Et il pose la question, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, je transporte des cailloux. Hein. Et puis l'autre, parce que je dois monter un mur. Et puis après l'autre, c'est parce que je participe à la construction d'une grande cathédrale. Alors, mais du coup, si on a la finalité... entre transporter des cailloux parce qu'il faut le faire et puis il faut bien gagner sa vie, et puis le fait d'avoir... C'est pas la même chose. Donc, vraiment, la finalité, le voir comme un bien qu'on désire. Et un bien qui soit moralement bon. Parce que on voit bien qu'il y a des fausses prudences. Le terroriste, il réussit bien son coup, mais c'est pas un bien au bout d'un... Alors il a une finalité, mais c'est plutôt pour détruire. Hein, donc la prudence, la vertu de la prudence, c'est pas pour faire le mal, bien évidemment, c'est pour faire le bien. Hein. C'est pas simplement d'atteindre un but à tout prix, c'est que le but soit bon, la finalité soit bonne. Voilà. Bon, je crois que c'est assez clair comme ça. Hop. Toujours dans cette première partie, avant, c'est de mettre des priorités. Alors, vous connaissez sans doute les gros cailloux hein, pour organiser son temps. Alors, c'est de savoir. Donc, finalement, je vous le lis pas en entier, sinon. On n'arrivera pas au bout, mais donc il faut commencer par mettre les grosses choses, sinon les petites choses, elles prendront toute la place, et les grosses choses, il n'y aura plus de place pour elles. Et dans les finalités qu'on a, il y a plusieurs niveaux de finalités. Il y a une hiérarchie à mettre entre les finalités qu'on poursuit, entre La finalité ultime, ben, je pense que c'est pour nous chrétiens, c'est de retrouver le bon Dieu au terme de notre vie. Après, je pense que c'est Votre vie familiale, conjugale et familiale. Après, c'est la vie professionnelle, peut-être. Enfin, après, je... Mais c'est important de mettre de l'ordre, parce que si on ne met pas d'ordre, du coup, on passe tout son temps au travail, et puis on néglige sa famille, on néglige sa relation avec Dieu. Mais du coup, d'avoir bien au fait quel est le but de ma vie. Donc, vraiment hiérarchiser les finalités. Quels sont les plus gros cailloux que je veux vraiment mettre je veux qu'ils soient absolument là. Donc ça fait partie de la prudence, de savoir s'arrêter de temps en temps pour remettre de l'ordre. Alors, quelqu'un disait ça d'une autre manière, c'était de dire, vous faites un diagramme avec deux axes, urgent, important. Alors, ce qui est à la fois urgent et important, là c'est le moment de crise, il faut le faire. Vous n'avez pas pris, je dis une chose comme ça, mais vous n'avez pas pris soin de votre couple et tout ça, et ça commence à se lézarder, alors là ça devient urgent et tout ça. Mais normalement, il vaut mieux anticiper, parce que important, c'est aussi prendre soin de sa santé un minimum. Alors, ça ne veut pas dire non plus de se tâter le pouls toutes les deux minutes, mais prendre soin de sa santé. Sinon, ça devient... c'est pas urgent de s'occuper de sa santé, mais c'est important. Et quelquefois, on fait passer des choses urgentes, pas importantes, avant les choses importantes, mais pas urgentes. Donc, c'est bien de temps en temps remettre un peu de l'ordre dans tout ce que... je détaille un peu ou pas ? Non, je pense que ça, c'est... Et si je vais... Pour vous mélanger un peu tout, je vais reprendre un passage d'Évangile. C'est très important de... Par exemple... Je vous lis un petit passage de Saint Matthieu au chapitre 9. Tandis que Jésus leur parlait de Jean-Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Et alors, du coup, on se dit, mais alors, Jésus, est-ce qu'il est au clair avec ses priorités? Quand même, sa fille, elle est déjà morte, à vrai dire, là. Donc, finalement, on n'est plus à ça près. Hein. Mais, donc, il s'est dérangé, et puis vous rappelez du passage dans l'Évangile, qui m'a touché, tout ça, mais... Et alors, donc il prend le temps de s'arrêter. Alors, mais je pense à un autre passage. Jésus qui se laisse bousculer. Alors, Jésus dit à ses apôtres, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Donc, il faut prendre soin de sa santé. Donc, venez vous reposer. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, beaucoup les reconnurent. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. C'est intéressant de voir la prudence, c'est aussi une vertu souple. On voit en Jésus, il y a une souplesse. Bien sûr qu'il faut prendre ce temps, mais en même temps, nos priorités, il faut à tout moment les revoir, parce qu'il y a des imprévus qui surviennent, tout ça. Et du coup, on est toujours amené à s'arrêter pour voir quelle est la priorité, qu'est-ce que le bon Dieu veut dans cette circonstance. Est-ce que, du coup... S'il avait été rigide, il aurait dit, non, on va se reposer, allez. Il les aurait envoyés promener vite fait, bien fait. Mais en même temps, il était parti pour se reposer. Alors, C'est là que ça demande beaucoup de souplesse, la prudence. Ce n'est pas quelque chose de figé, étroit, etc. Et ça demande de... Encore une fois, je pense, il faut savoir prendre le temps de s'arrêter, peut-être tous les ans, pour voir les grandes priorités de notre vie. Souvent, c'est quand on fait une retraite chaque année, ben, c'est l'occasion ou jamais de voir un peu quelles sont mes priorités. Est-ce qu'il y a eu des glissements dans ma vie et finalement... peut-être le dimanche, revoir les priorités de ma semaine. Le matin, avant de partir, ben, voir qu'est-ce qui est important. Okay. Je pense que c'est très important, toute cette question des priorités dans notre vie. C'est pas simple non plus, hein. Je dis pas que ça soit simple, mais voilà. Je suis toujours dans le « avant ». Et encore une chose sur le « avant », la prudence, en tout cas de choisir les moyens. La prudence, c'est vrai de toutes les vertus, elles ne sont pas déconnectées les unes des ailes, les unes des autres. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui est très impulsif et très impatient, il aura du mal à être prudent. Il faut qu'il travaille sur sa prudence pour être un peu plus... sa patience pour être un peu plus prudent. Parce que sinon, il va s'engager tout de suite sans réfléchir, alors que... Mais c'est vrai aussi d'autres choses. Alors, je pensais à beaucoup, et ça, je crois que c'est... Je le cite parce que je pense que c'est quand même assez actuel comme travers. On n'est pas dans un monde très patient, hein. Globalement, ce n'est pas la vertu dominante de notre société. Et du coup, l'idée, je crois que j'ai trouvé ça chez Pascalide, c'est de passer de la réactivité à la proactivité. On réagit aussitôt, tant qu'on reçoit un SMS, tant qu'on n'a pas le temps de réfléchir, qu'on a déjà répondu. Et quelqu'un qui n'a pas répondu dans la demi-heure, mais qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, on marche beaucoup de manière impulsive. Et du coup, alors qu'est-ce que ça veut dire de fonctionner de manière impulsive? C'est que ça n'a pas le temps de descendre aussi dans notre conscience. On réfléchit, c'est du tac au tac. Mais on a, je pense, dans bien des cas... Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre une demi-journée à chaque fois pour répondre, bien sûr. Bien sûr, mais globalement, je pense qu'on gagnerait à prendre un petit temps d'attente avant de répondre. Je parle des mails ou des... Mais quand on est sollicité, plutôt que de répondre tout de suite... Alors, ce n'est pas absolu, hein, ce que je dis. Il y a besoin de discernement et de prudence dans tout ça. Mais on gagne souvent à réfléchir un petit peu avant de dire ce qu'on a envie de dire. Ça nous permet de prendre une certaine distance pour voir s'il n'y a pas peut-être d'autres solutions, si on ne peut pas aborder les choses d'une autre manière, si justement on ne se laisse pas déborder par ses émotions et ses sentiments. C'est une manière de se réapproprier sa liberté face à ça. Qu'est-ce que moi je veux? Ça me paraît vraiment... La prudence, elle va avec un certain travail de l'intelligence, un certain travail de réflexion, et du coup, ça prend du temps. Alors, encore une fois, selon l'importance des décisions à prendre, hein, il y a des choses... pas attendre 107 ans. Hein. Voilà ce que disait Saint Vincent de Paul. Dieu s'honore beaucoup du temps qu'on prend pour considérer mûrement les choses qui regardent son service. Saint Vincent de Paul, c'est quelqu'un qui est réputé pour sa prudence. Lui, il prenait plusieurs heures de prière le matin avant de démarrer sa journée. Et c'est quelqu'un qui est très astucieux, très, dans le bon sens du mot, hein, astucieux, mais voilà, qui est réputé pour sa prudence. Et, voilà. Autre chose qui peut être un obstacle pour voir qu'il faut resituer la prudence dans un contexte plus large, c'est en fonction des passions. Parce que si on est complètement emporté par ses passions et ses émotions, on aura du mal à être prudent. Du coup, la tempérance nous aide aussi à être, et si on vit la tempérance, ça nous aidera pour une part à être plus prudent. Ou inversement, enfin, pour ce qui est de la force, hein, pour les vertus cardinales, si on n'est pas paralysé par la peur, alors on pourrait aussi être plus prudent. On sera pas, on pourrait dire qu'il y a des choses qui nous empêchent d'être prudents, c'est par exemple le ressentiment, qu'on est habité par le ressentiment, la jalousie, la haine, la peur. Du coup, on réagit plutôt par rapport à nos blessures dans ce cas-là et pas tellement par rapport à ce qui est bon ou ce qui serait bon à faire. Du coup, là, c'est pour ça que j'ai placé ça dans la partie avant la prudence en tant que telle. C'est ce climat où on apprend à être un peu plus raisonnable, entre guillemets, et pas juste à la merci de nos émotions. Sinon, on peut faire du mal. Voilà. C'est bon. Ça, c'était avant. Maintenant, on va faire pendant, même si vous avez bien compris que la finalité, ça fait vraiment partie de la prudence, savoir où on va avant de se mettre en route. Mais là, je trouve que ce qui est peut-être le plus caractéristique de la prudence, c'est le choix des moyens pour arriver au but. C'est très caractéristique. Alors, il y a trois moments principaux. C'est la délibération. Alors, on essaie de voir toutes les possibilités. Après, la décision. On en choisit une parmi toutes les possibilités. Et puis après, c'est l'exécution, hein, se passer à l'acte. Et alors, il y a ces trois choses-là, mais ce qui me paraît important, c'est qu'il y a un équilibre entre les trois. Il y a vraiment un équilibre entre les trois. C'est pas l'homme prudent, c'est pas celui qui délibère indéfiniment et puis il décide jamais. C'est pas non plus celui qui délibère, qui décide, mais après qui met pas à l'acte, qui passe pas à l'acte. Non, l'homme prudent, c'est celui qui fait les trois. C'est pas non plus celui qui passe à l'acte avant d'avoir réfléchi avant. Prenons un exemple bête. Vous achetez une voiture. Vous précipitez pas forcément sur la première voiture. Vous réfléchissez quels sont vos besoins, etc. Et puis, en fonction de ça, le modèle qui vous convient. Et puis, s'il y a le concessionnaire qui vous convient aussi à côté. Enfin bon, je ne sais pas. Après, vous faites un inventaire, mais vous n'allez pas y passer non plus 3 ans parce que les modèles auront changé entre temps. Donc, il faut le faire un minimum, mais pas non plus y passer sa vie, quoi. Et puis, selon l'importance des choses, on n'y passe pas sa vie. Si c'est de peu d'importance, on raccourcit le temps de délibération. Vous voyez, c'est une sorte d'équilibre. Après, il faut décider. Ah, voilà, c'est ce modèle-là que je choisis. Mais après, il faut sortir le carnet de chèques. que ça soit la voiture idéale pour vous, c'est une chose, mais l'important c'est que vous puissiez rouler avec après. donc il faut les trois, hein. Et d'une manière équilibrée, vous n'allez pas sortir le carnet de chèques avant d'avoir réfléchi au modèle qui vous convient. Ça serait stupide. Il faut d'abord, il y a un ordre, mais sans passer tout son temps sur l'un ou sur l'autre. Après, voilà. Donc il y a ces trois actes. La délibération. Je vous cite encore le pape François. Je me méfie des. C'est le 19 septembre 2013. Je me méfie des décisions prises de manière improvisée. Je me méfie toujours de la première décision, c'est-à-dire de la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je dois prendre une décision. En général, elle est erronée. Je dois attendre, évaluer intérieurement, prenant le temps nécessaire. La sagesse du discernement compense la nécessaire ambiguïté de la vie et fait trouver les moyens les plus opportuns qui ne s'identifient pas toujours avec ce qui semble grand ou fort. Donc, la fin ne justifie pas les moyens, mais qui veut la fin veut les moyens. Vous connaissez ces adages. Alors, donc, première chose, la délibération. La délibération, ça suppose d'abord d'être une attitude d'écoute et de docilité à l'égard de Dieu et à l'égard des autres. C'est Saint Jacques qui dit « Il faut que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Mais voilà, c'est une qualité de docilité. Alors quand on est un peu orgueilleux, tout ça, on a un peu de mal à demander conseil. Et je pense que déjà, auprès de Dieu, lui demander sa lumière. Vous savez qu'il y a des dons du Saint-Esprit qui sont attachés à chaque vertu. Et le don du Saint-Esprit attaché à la prudence, c'est le don de conseil. Donc on demande conseil. On invoque l'Esprit-Saint pour qu'il nous conseille, pour prendre la bonne décision. Et ça suppose aussi de se nourrir de la parole de Dieu pour y voir clair. L'écoute et la docilité, ça suppose de se décentrer un peu de soi-même. Saint Ignace de Loyola, vous savez que donc lui, c'est un maître dans le domaine du discernement, c'est très proche de la prudence. Mais lui avait à cœur de cultiver une forme d'indifférence, pas dans le sens du « je m'en foutisme », mais l'indifférence dans le sens de se tenir prêt à faire ça ou ça. Si c'est Dieu qui me demande, je ferai ça. S'il me demande plutôt ça, je le ferai. Et du coup, de prendre un peu de distance avec nos propres désirs pour s'assurer que ça soit vrai, d'être docile à ce que le bon Dieu pourra nous demander. Donc ça c'est, voilà. Donc la délibération, ça demande d'abord cette écoute de Dieu, ça demande aussi l'écoute des autres. Surtout si on n'a pas beaucoup d'expérience. Plus on est jeune, plus on a besoin d'écouter. Parce que vous comprenez bien que la prudence, plus on a d'expérience, plus on a quelque chose d'être prudent. Quand on est très jeune, on peut bien raisonner, mais il nous manque l'expérience. Donc, et du coup, ça peut se faire justement en demandant conseil aux autres, à ceux qui ont un peu plus d'expérience que nous. Ça peut se faire en lisant la vie des saints, ça peut se faire de diverses manières, finalement de bénéficier de l'expérience des autres pour nos propres choix. Alors, le Siracide donne. J'ai enlevé quelques versets quand même. Il dit fais attention aussi à ce que tu demandes pour le conseiller. Voilà. Tout conseiller donne des conseils, mais il en est qui cherchent leur intérêt. Ne consulte pas une femme sur sa rivale, ni un poltron sur la guerre. Ils ne vous donneront pas les bons conseils. Et c'est Saint Benoît qui encourage aussi à écouter le plus jeune dans une communauté. Il dit, ne consulte pas seulement les anciens, mais le dernier arrivé, il peut peut-être... souvent Dieu inspire un plus jeune. Voilà. Donc voilà, ce conseil qui est assez ouvert pour se laisser éclairer par les autres. Donc dans la délibération, justement, pas rester seul, mais prendre conseil. Et puis en même temps, il faut que ça nous... On ne va pas prendre une décision si on sent que ce n'est pas ça. Il faut l'intégrer, parce que si on sent que ce n'est pas ça, Après, dans l'action, on ne sera pas très opérant si on n'est pas convaincu de ce qu'on doit faire. Donc, il faut voir. Et quelquefois, justement, la délibération, on ne peut pas décider tout de suite parce qu'on n'y voit pas clair. Donc, il faut quelquefois reporter. Alors, ça suppose aussi de la mémoire. Vous savez la différence entre acquérir de l'expérience et faire des expériences. Il y a des gens qui font des tas d'expériences, mais qui n'acquièrent pas d'expérience. Parce qu'ils ne relisent pas après ce qu'ils ont vécu. Et du coup, ça ne leur sert à rien. Ils répètent les mêmes erreurs indéfiniment. C'est dommage. Et quelquefois, on ne fait pas beaucoup d'expériences, mais on acquiert vraiment de l'expérience parce qu'on les relit. Alors là, j'anticipe un peu ce que je dirai après, mais pour après. Mais l'importance de relire pour capitaliser sur ce qu'on a fait, bien ou mal. Mais on peut. Et donc, saint Thomas d'Aquin parle des parties intégrantes de la prudence. Alors, il parle notamment de la circonspection. Alors, en fait, à travers ça, il veut parler de la prudence, ça nous connecte vraiment au réel, à la réalité, avec toutes ses subtilités, toutes ces. Et du coup. Je pense à, je ne vous dirai pas le nom, bien sûr, mais je pense à une personne en particulier qui a de l'expérience, je crois que je peux dire, qui raisonne correctement, mais qui est un peu à côté de la plaque. Du coup, il y a un petit hiatus entre sa perception de la réalité et la réalité. Mais pour être prudent, c'est compliqué quand on est un peu à côté de la réalité. Parce que la prudence, c'est vraiment ce qui nous fait coller à la réalité. Et il y a des personnes, c'est pas leur faute, hein, c'est pas un péché de leur part, mais simplement, c'est comme celui qui voit pas clair. Vous allez pas vous énerver parce qu'il voit pas clair. Mais certaines personnes sont un peu à côté de la réalité. Alors elles ont toujours du mal avec la prudence. Alors je pense que ça peut se compenser partiellement si elle trouve quelqu'un qui les conseille bien à côté, qu'elle lui font confiance. Mais c'est comme l'aveugle, ben, il se laisse guider par quelqu'un d'autre qui voit mieux. Mais ça, c'est une grande difficulté, parce que la prudence, c'est pas l'intello qui réfléchit dans son bureau. La prudence, elle nous ramène à la réalité bien concrète qui nous fait quelquefois mal. Mais donc ça. C'est important pour cette délibération de voir aussi cette place de qu'on a. Oui, ça peut être des difficultés qu'on peut avoir, mais à ce moment-là, on peut essayer de la compenser au moins partiellement en prenant conseil ou en s'appuyant sur quelqu'un dont on peut se fier au discernement. Voilà. Ça, c'était le 3 pendant la prudence. Donc, la première chose, c'est. La délibération. La deuxième chose, c'est la décision. Hein? Délibération, décision, exécution. La deuxième chose, c'est la délibération. C'est le moment où on choisit entre toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour aller à Paris. Est-ce que je vais passer par Amiens ou par, par Marseille ou par Senlis? Voilà les différents moyens que je vais choisir. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Et il y a un adage que j'aime bien. Mieux vaut un imparfait existant qu'un parfait inexistant. Hein, c'est-à-dire que bon, voilà, peut-être que le moyen il a ses limites et tout ça, mais en même temps, on peut pas attendre d'avoir les moyens parfaits pour se mettre en route. C'est une question d'équilibre. Si on attend trop, ben voilà, le train sera déjà passé. Et puis donc, vous sentez qu'il y a toujours une adaptation et une souplesse dans la providence qui est vraiment importante. Et cette décision, alors je reviens un tout petit peu à Saint-Ignace qui dit, mais quand on prend une décision, c'est intéressant de voir comment on est. Est-ce qu'on est paisible et joyeux? Ou est-ce qu'on est encore torturé intérieurement? Si on est encore torturé intérieurement, ça peut être mauvais signe. Est-ce que je suis paisible? Et du coup, est-ce que c'est vraiment une décision telle que le bon Dieu vous la voudrait? En tout cas, le signe, la paix, est souvent un signe important. Voilà. Et puis, certaines fois, on ne peut pas encore décider parce qu'on n'a pas assez de lumière. Alors, certaines fois, il faut attendre. Tout ça, c'est une question d'équilibre. En tout cas, peut-être quand même trois choses qui peuvent éclairer. À un certain moment, il faut décider. Il ne faut pas laisser les événements décider pour nous. Il y a des gens, ils attendent tellement que finalement, c'est la vie qui décide pour eux. Alors, je dis une chose, mais c'est peut-être un peu violent, je ne sais pas, mais quelqu'un qui ne sait pas décider, et il n'y a pas de jugement de... est-ce qu'il va se marier, rentrer dans la vie religieuse, tout ça, il hésite indéfiniment. Mais au bout d'un moment, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans qui passent, ben, au bout d'un moment, la question se pose autrement. Hein. Quand on a 60 ans, ben, on peut toujours se marier à 60 ans, mais ça ne se pose pas de la même façon qu'à 30 ans. Donc, quelquefois, si on ne décide pas, c'est la vie qui décide pour nous. Aussi. Sans... Donc, décider, c'est justement pas laisser les événements décider pour nous, la vie décider pour nous. C'est aussi pas décider à moitié. C'est un peu compliqué quelquefois quand les gens décident, mais ils décident sans vraiment tout à fait décider. Ils sont pas encore vraiment convaincus, donc... Il y a encore du flou. Peut-être qu'ils ont décidé, mais c'est pas clair. C'est pas assez précis ce qu'ils ont décidé. Du coup, c'est pas opérant. Donc, on voit que décider, c'est entrer vraiment dans le concret aussi. Quand on décide, oui, je décide d'acheter telle voiture, mais j'ai pas réfléchi que j'avais pas les sous pour l'acheter. C'est un peu ennuyeux, quoi. Et ça faisait partie quand même du... Donc, si on décide, il faut aller jusqu'au bout. Quelquefois, ça nous coûte d'aller jusqu'au bout. Et parce que quand on décide, il faut vraiment décider. Pas moitié, mais il faut que... dire, bon, ça se fera peut-être. Ou voilà. Non, on décide. C'est vraiment l'exercice de notre liberté. C'est le lieu par excellence de notre liberté de décider. Et décider, c'est renoncer. Si je prends une voie, ben je prendrai pas l'autre. Si je me marie avec quelqu'un, ben je me marierai pas avec quelqu'un d'autre. A priori, voilà. Décider, c'est renoncer. Et quelquefois, on veut bien décider, mais sans renoncer. Alors, c'est pas idéal. Il y a encore une fable de La Fontaine, le héron. Voilà, mais je connais pas bien. Voilà. Alors, donc, on disait délibération, décision, exécution. Alors, ça, c'est le troisième. Donc, c'est faire passer dans le concret, s'incarner, là, la décision. C'est pas une... Quelque part, on quitte le rêve à ce moment-là. On peut rêver des tas de choses, la vie idéale, tout ça, mais... Là, on atterrit, hein. On atterrit dans l'exécution, on atterrit. Ça se concrétise, ça s'incarne. Alors, c'est là qu'on pourrait relire cette parole de Jésus. Hein. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Alors, bien sûr que Jésus désire qu'on y aille, mais en même temps, il dit, décide pas à moitié. Juste avant ce passage, si vous allez voir, c'est dans Saint-Luc au chapitre 14. Dans les versets 25, je vous lis les versets 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Et après, c'est là que vient ce verset. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Du coup, quelque part, Jésus dit, je ne vous prends pas en traître, je vous dis ce qu'il faut. Mais si vous vous mettez en route, il ne faut pas le faire à moitié, quoi. Alors, sachant que c'est en s'appuyant sur la grâce de Dieu aussi qu'on pourra le faire. Parce qu'à ses propres forces, renoncer à soi-même, voilà, c'est douloureux quelquefois. Hein. Mais alors, du coup, là, on voit que la prudence, c'est pas seulement une question d'intelligence. Là, on est plein de... C'est la volonté, là, qui... C'est pas seulement une question de bien voir, à un certain moment, c'est de passer à l'action. Et du coup, là, alors quelqu'un qui n'a pas de volonté, ça devient compliqué. Du coup, c'est vrai que les parents et les éducateurs, c'est important de former, pas seulement l'intelligence, mais former la volonté pour que quelqu'un soit capable de s'engager. Parce que savoir des tas de choses, des tas de belles choses, mais après, pas pouvoir passer la vitesse, c'est un peu ennuyeux. On reste au point mort. Alors, donc, c'est... Alors, encore une fable de La Fontaine. C'est un peu normal, parce que c'est plutôt dans le domaine de la sagesse, hein, les fables. C'est les... Attendez. Ah oui. Le conseil tenu par les rats. Vous connaissez ? Ah, les rats commencent par se réunir pour empêcher le chat Ramina Grobis de continuer ses ravages. Donc il y a le gros chat là qui fait ses ravages. Donc les pauvres rats, ils emmènent la vie dure, donc ils se mettent d'accord. Finalement, ce qu'on va faire pour qu'il arrête ses ravages, on va lui accrocher un grelot au cou, comme ça on entendra arriver, et puis on aura le temps de se sauver. Bon, maintenant, qui va mettre le grelot au cou du... Alors là, plus personne. D'où la conclusion. Ne faut-il que délibérer ? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter ? On ne rencontre plus personne. Voilà. Alors, voilà. Donc là, c'est vraiment le moment où, voilà, on passe. C'est pas un vague plan qui reste dans notre tête, c'est le plan parfait, sauf que quand il faut y aller, il n'y a plus personne. Là, on y va. Donc, c'est vraiment passer du rêve à la réalité. Et autre élément, c'est que il vaut mieux se tromper que rester assis à rien faire. Le prudent, il accepte aussi une part de risque. Voilà, on sait que on est dans le contingent, on est dans le réel. Il y aura des imprévus, il y aura... Voilà, on ne maîtrise pas tout. Mais on y va quand même. Avec prudence, justement, avec... voilà. Et donc, c'est l'engagement de la volonté, c'est aussi exécuter sans retard. Il y a un mot qui est apparu qu'il y a quelques années, je sais pas, il y a 30 ans, on l'entendait pas, la procrastination. Mais c'est devenu à la mode. Bon, on reporte, voilà, toujours au lendemain. Mais Franklin disait, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Donc on est dans deux logiques assez différentes. Et puis, c'est d'aller jusqu'au bout de la décision. Pas s'arrêter en cours de route. C'est, par exemple, dans la parabole du semeur, Jésus dit, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Voilà. D'aller jusqu'au bout d'un choix qu'on a posé. Alors, pas de manière entêtée, hein, vous sentez bien. Il faut quelquefois, si les circonstances ont changé, il faut réévaluer peut-être ce qu'on avait. Mais en même temps, pas se laisser décourager trop vite, sinon on ne va pas au bout de... Parce qu'on se construit par nos choix qu'on mène à bien, qu'on mène jusqu'au bout. C'est ce qui est dit dans saint Matthieu au chapitre 25. « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Justement, je pense que la prudence, ça se fait pour des choses petites, au point de départ, et puis petit à petit, on peut... Voilà, la prudence, on grandit petit à petit. Alors j'en viens après, mais ça va être assez court. Après l'acte du prénom, donc avant, pendant, c'est plus les trois moments de la délibération, de la décision et de l'exécution. Et puis après, alors je vais retenir trois choses aussi, mais c'est ce qu'on appelle la fruition. Alors c'est un mot un peu barbare peut-être, mais c'est de goûter et savourer sa victoire aussi. Savoir, on est dans un monde quand même assez activiste et on ne prend pas forcément le temps de s'arrêter pour faire le point une fois et goûter ce qu'on a bien fait. C'est le sens du sabbat, c'était aussi un rabbin qui disait, mais c'est bien de construire ta maison, mais c'est bien aussi de l'habiter après. Pas être toujours en train de vouloir faire quelque chose de nouveau. Il faut aussi goûter ce que le fruit, pas simplement faire pousser les fruits, mais les goûter. Et ça, le pape François invite, dans divers contextes, il invite à célébrer les étapes parcourues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans sa première lettre, au début de son pontificat, je vous cite, c'est dans le numéro 24 de Evangelii Gaudium. La communauté évangélisatrice, joyeuse, s'est toujours fêtée. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l'évangélisation. On n'attend pas d'être arrivé au sommet pour fêter, mais déjà quand il y a un pas, on fête ça. Et c'est important pour les enfants. Pas attendre la fin de leurs études pour fêter le bac, mais voilà, entre-temps, il y a eu des petites victoires, et du coup, mais nous aussi, des victoires sur nous-mêmes et tout ça, donc. Ou alors voilà ce qu'il disait pour les 90 ans du cardinal Sonano. Tous les jours nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie, mais quand il y a des fêtes importantes, 25e, 50e anniversaire et les dizaines, l'action de grâce est plus forte. En ces fêtes, la mémoire du chemin parcouru se fait plus forte, et cette mémoire nous conduit à offrir un don, mémoire qui est une dimension de la vie. Cette mémoire nous donne la force pour aller vers une autre décennie. C'est un peu ça. On fête et puis après on va un peu plus loin. Mais la prudence, c'est ça. On a réussi quelque chose, on s'appuie sur ça pour aller plus loin. C'est aussi pour l'espérance. Il dit souvent que l'espérance se nourrit de la mémoire. Allez, l'espérance se nourrit de la mémoire. Il faut capitaliser. C'est quelque chose qui est très présent dans la parole de Dieu, faire mémoire. Ce n'est pas de manière nostalgique, mais voilà, quand il y a eu quelque chose de beau, il faut le garder en mémoire. C'est un peu notre pain qui nous aide à aller plus loin. Donc, voilà. Donc, après, l'acte de prudence, c'est déjà ce fait de goûter, de savourer, pas de manière égocentrique, c'est pas la question, mais pouvoir quand même se dire... Et puis après, d'aller un peu plus loin, c'est de faire une relecture. Alors, ça peut être un bilan positif. Mais si on a raté, c'est important aussi de faire une relecture, même si ce n'est pas très agréable. Mais au moins pour deux raisons. Pour ne pas se laisser paralyser par un échec. Mais de ne pas rester enfermé dans un échec. Parce que ce n'est pas parce qu'on a eu un échec que tout est... De ce point de vue-là, en France, on n'est pas très gâté. Dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup plus de place laissée à l'échec. En France, quelquefois, on n'a pas trop le droit à l'échec. Et ça, mais on peut se donner le droit à l'échec. C'est humain, hein, mais voilà. Et puis, relire, c'est aussi pour apprendre de ces échecs. d'en tirer quelque chose. Et du coup, c'est intéressant de... L'échec, on le regarde plus simplement de manière négative, mais on le regarde sous l'aspect positif aussi. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Et du coup, il y a des choses, on ne refera pas les mêmes erreurs parce qu'on a... Voilà, on a réel... Voilà, non. Ça, je... Donc, j'engrange une expérience qui m'aidera pour l'avenir. Et puis, toujours après l'acte de prudence, c'est aussi se replacer devant notre fin ultime. Et là, c'est un peu un cycle hein, qu'on fait, mais... Voilà, même si ça peut-être ça s'est moyennement passé ou bien passé, je ne suis pas arrivé au bout encore. Et voilà, c'est de se remettre dans cette dynamique pour continuer le chemin. Alors je conclue, ça va, par la prière du roi Salomon qui demande la sagesse, mais c'est la prudence finalement qu'il demandait hein, pour gouverner son peuple. Alors, c'est au chapitre 7 du livre de la Sagesse, des versets 7 à 11. Donc, vous pourrez l'apprendre éventuellement pour vous. J'ai prié, la prudence m'a été donnée. J'ai supplié, l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. Alors, le Seigneur vient nous éclairer. Alors, vous avez des questions faciles, comme d'habitude, sinon je ne réponds pas.
Prudence et tempérance, du coup,
alors, elle ne se situe pas exactement au même niveau. La prudence, c'est vraiment ce qui nous sert à nous gouverner, à voir où on va aller, etc. La tempérance, c'est beaucoup par rapport au plaisir, etc., que ce soit au niveau de la bouche, de la sexualité. Ou de, les enfants, souvent, c'est plutôt le principe de plaisir qui les gouverne quelquefois. Et la tempérance, c'est de prendre un peu de distance pour pas que notre critère d'action, ça soit pas ce qui me plaît ou ce qui me déplaît, mais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, c'est autre chose. Hein, donc. Mais du coup, la tempérance va nous aider. Parce que si c'est compulsif, je bois du chocolat, mais je vois que ça ne serait pas très bien que je le mange, mais en même temps, je suis tellement gourmand que... ben voilà, j'ai beau le voir intellectuellement, si j'ai pris des mauvaises habitudes au niveau... De la gestion de toutes mes passions, etc., ben je verrai par un certain côté de mon intelligence que c'est pas comme ça, mais en fait je succomberai parce que y a un poids de mes habitudes qui fait que j'arriverai pas à me gouverner. C'est comme une voiture, quelquefois elle tire à droite. Voilà. Donc, alors après, donc la prudence, elle a une place particulière, elle fait un peu le lien, c'est vraiment pour se guider. Après, la tempérance, la force, alors elles sont un peu parallèles, on pourrait dire. Hein. La tempérance, ça met un peu le frein sur toutes nos... Et la force, c'est au contraire d'aller, même quand il y a des choses difficiles, allez, on y va, même si je préférerais rester dans mon petit trou, tout ça. Mais la force, du coup, ça nous permet d'affronter quelque chose de difficile, tandis que la tempérance, c'est de me restreindre par rapport à ce qui est agréable et facile, hein, où j'ai tendance à vouloir me plonger là-dedans parce que c'est facile et tout ça, voilà, mais quelque part je m'y perds aussi, donc c'est voilà. Et puis la justice, hein, puisque c'est les quatre vertus cardinales, c'est dans ma relation avec les autres, pour que j'ai une relation juste avec les autres. Donc c'est la justice qu'on verra le mois prochain normalement.
La quatrième, prudence,
Alors, c'est prudence, justice, force, tempérance. Habituellement, c'est dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Mais bon, il n'y a pas...
Oui. Parce que c'est la réactivité à la
proactivité. Ah oui, à la proactivité. C'est, voilà, je ne réagis pas à quelque chose, c'est moi qui ai l'initiative de ce que je vais. C'est pas simplement comme une balle qui rebondit dans un mur, et puis voilà. C'est moi qui suis à l'origine de mes actes. Et je, c'est pas le. Donc c'est quand même très différent, hein, de. Quelquefois, on est beaucoup plus dans la réactivité, hélas, que vraiment dans qu'est-ce que je pense être bon. Et c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose de beau quand on peut être vraiment à l'origine de notre vie. En tout cas, gouverner notre propre vie sans être simplement dans la réaction vis-à-vis des autres.
Et pas réagir, mais agir.
Oui, exact. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, peut-être une image, je ne sais pas si elle sera juste, hein, mais peut-être que c'est une image qui te parle. Il y a un fruit, une pomme, elle est sur l'arbre. Bon, il faut qu'elle soit à maturité avant de la manger. Mais si tu attends trop, elle ne sera plus très bonne. Alors, c'est essayer de voir quel est le moment adéquat. À un certain moment, le fruit est mûr. Si tu attends trop, alors c'est une question d'appréciation. C'est pas toujours très très facile. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on attend. Est-ce que c'est simplement parce qu'on voit ou parce qu'on a peur et du coup faire la part des choses avec peut-être si. Je pense, selon les frères, je pense qu'il y a un frère qui est plutôt impulsif, donc il y va. Lui, à mon avis, il vaudrait mieux qu'il attende un petit peu plus. En tout cas, à côté de ça, il y a des frères plus timides, timorés, tout ça. Il vaut peut-être mieux qu'ils se décident un peu plus vite, ceux-là. Donc, on peut regarder un peu en fonction de notre tempérament, notre tendance qui est peut-être d'attendre de trop, ou la tendance de certains de trop se précipiter et de pas attendre assez. Je ne sais pas, ça peut être quelques critères, mais en même temps, il faut y voir suffisamment clair. Et puis, parce qu'on sait bien que pour dire quelque chose à une personne, quelquefois on attend le bon moment, mais on peut attendre des années. Quelquefois, si. Donc, il y a le juste. C'est vrai qu'il faut quelquefois, il faut attendre souvent, mais. Mais il ne faut pas que ça soit simplement parce qu'on n'a pas assez le courage d'y aller. Et en même temps, il faut y voir suffisamment clair pour y aller, pour pas. Bon, c'est. Mais... Ça demande un discernement, mais je n'ai pas de règle automatique hein, pour ça.
Il faut pas aussi être un peu à l'écoute de l'autre, enfin, parce que le moment, il dépend aussi de la réceptivité.
Alors, il faut être à l'écoute de l'autre. C'est à l'écoute de l'autre et la prudence, elle prend vraiment en compte les circonstances. Il y a, dans un acte comme ça, pour continuer sur ce même exemple, on doit dire quelque chose à quelqu'un, mais je dois aussi faire attention aux circonstances, c'est est-ce que cette personne continue à faire des dégâts autour d'elle ? À ce moment-là, il ne faut quand même pas que j'attende indéfiniment, parce que pendant ce temps-là, les dégâts se perpétuent. Alors, donc, il y a beaucoup de circonstances à prendre en compte quand on prend une décision. La réalité, elle est tellement complexe qu'on n'a jamais tous les éléments, mais quand même de regarder, pondérer les différentes choses pour voir, sachant qu'il n'y aura pas la situation idéale. Il faut faire le deuil de la situation idéale. Ça, c'est ce qui nous est peut-être le plus difficile. On voudrait la solution idéale qui... Ben non, si on attend la suite, ça sera passé. Et puis pendant... Donc, quelquefois, ben, ça comporte une part d'humilité. J'avance, je ne suis pas sûr de faire... quitte à après en garder une expérience pour une autre fois. Et puis, bon... Mais là, c'est une appréciation de la réalité qui est pas simple, justement. C'est là qu'on voit qu'il suffit pas de raisonner correctement. Il faut être très attentif à la réalité. Les conseils des autres peuvent être précieux pour ça. Si c'est les bonnes personnes que... Voilà. Mais... oui, non, c'est pas... Mais en tout cas, faire le deuil de la situation idéale, parce qu'on est dans du concret... dans des réalités humaines qui sont changeantes, etc. Si... Mais garde l'image du fruit. Bon. Il n'est pas mûr. Bon. Ah là. Mais je ne vais pas attendre indéfiniment. Une fois qu'il est mûr, j'y vais. Et puis... Quitte à prendre des risques, peut-être. Bon. Alors, une autre manière de considérer les choses aussi, c'est si je n'agis pas, est-ce que c'est pas plus grave de pas agir que d'agir? Donc on peut prendre les choses à l'envers aussi. Quelquefois, à force de pas agir, on fait beaucoup plus mal que d'agir. Donc l'omission est quelquefois beaucoup plus grave que de dire. Donc bon, mais on est dans un monde qui est complexe, donc il y a pas de solution miracle. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours évident. Alors déjà, on peut quand même petit à petit y voir un peu plus clair. Alors, quelquefois, au début, surtout, il vaut mieux prendre un peu son temps avant de faire trop vite la correction fraternelle. Trop vite se précipiter, quelquefois, on durcit les choses plus qu'autre chose. Mais déjà, se rectifier soi-même. Est-ce que je le dis pour moi ou pour l'autre? Est-ce que je le dis, ben, finalement, je n'ai plus envie de souffrir, donc... Donc, je lui dis, ou est-ce que je suis suffisamment apaisé pour dire les choses, sachant aussi que quelquefois, si on dit rien, les choses empirent de plus en plus et on s'énerve de plus en plus. Alors ça, c'est vraiment mon expérience. Quand je suis apaisé pour dire quelque chose, l'autre sent que c'est pas pour me venger ou c'est pas pour lui régler son compte, c'est parce que je cherche son bien à lui avant de... Et quand je suis apaisé, habituellement ça porte ses fruits, c'est assez impressionnant, c'est de manière étonnante. Quand je suis pas apaisé, là c'est un peu plus compliqué, parce que l'autre réagit souvent quand il voit que je suis un peu énervé, tout ça. Alors, du coup, voilà, c'est comme ça.
On est dans la réaction. On n'est pas dans l'action. On est dans la
réaction. Oui, exactement. À ce moment-là. Mais vous sentez qu'on est dans le domaine de la réalité. C'est très. Elle nous échappe pour une part. Mais. Alors, c'est précieux d'avoir des conseils aussi. Quelqu'un qui est... Justement, les relations personnelles, on est impacté personnellement, donc on n'est pas tout à fait neutre dans l'affaire. Quand c'est quelqu'un qui est en dehors de ça, il peut nous dire, ben voilà, il peut nous dire, ah, tu sais, sur ce point-là, peut-être qu'elle a un peu raison. Il faut que ça soit un vrai ami qui nous caresse pas dans le sens du poil, mais qui sait dire aussi quand on... C'est ça le vrai ami, c'est pas celui qui simplement veut nous faire plaisir, mais celui qui nous aime et qui sait nous dire aussi que là, bon, c'est peut-être pas tout à fait juste. Voilà. Alors oui, d'avoir des conseils, c'est précieux. Et puis
je suis
on peut aussi apprendre à faire les choses les plus désagréables en premier, plutôt que de les mettre en dernier. La feuille d'impôt que vous remplissez la veille, il y a la dernière boîte à Paris qui est encore ouverte. Bon, on peut aussi apprendre à justement à pas, et du coup ça change quand même les choses d'apprendre. On est dans l'esprit libre, une fois que la chose qui nous énervait singulièrement, que nous, on l'a faite, après on est des, voilà, on est du coup c'est une manière de prendre sa vie en main, pas simplement faire les choses, se laisser bloqué par les échéances et tout ça. Et bon, il faut des échéances, hein, bien sûr, mais du coup il y a une manière de aussi de savoir anticiper un peu et pas attendre d'être bloqué par d'avoir l'épée sous les dans les reins pour faire les choses. Bon. Après on fait comme on peut, hein, mais
et si on fait des choses désagréables en premier, ça nous aide à grandir en prudence. C'est un peu qu'il y a la finalité.
Oui, oui. Je crois qu'il y a des choses... Ça... La prudence, c'est une vertu. Hein. On revient au topo de la dernière fois. Donc, ce n'est pas des petits actes répétés qu'on progresse. Hein, ça ne vient pas du premier coup. Et on voit que c'est une vertu relativement complexe, finalement, qui a beaucoup d'ingrédients, quand même. Hein, pour être prudent, il faut... Alors, nous, selon ce qu'on est, ben, peut-être c'est plutôt au niveau de la délibération qu'il faut qu'on ait du conseil. Ça peut être plutôt au niveau de la décision. Ça peut être au niveau du passage à l'acte qu'on a plus de mal. Alors, nous, c'est selon notre réalité personnelle, on travaille, on sent que c'est plutôt sur ce point-là qu'il faut qu'on travaille. On n'est pas tous pareils, donc c'est normal. On a plus de facilité sur certaines choses que d'autres. Ou certaines fois, ça peut être... Je reviens parce que j'ai trouvé ça très intéressant, la question de la finalité. Avant de se mettre en route, il faut d'abord désirer ce qu'on veut faire. Ça peut être déjà de prendre le temps d'aimer ce qu'on va faire. Alors, il y a des conseillers de diverses manières. Hein. Ça peut être des amis, déjà. Parmi les gens qui nous entourent, il y a des gens à qui on peut, qui sont proches. Alors, ça dépend sur quoi on va demander conseil. Si sur sa vie spirituelle, ça peut être aussi un autre laïc, hein, mais qui a une vie spirituelle. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Mais l'idéal, un conseiller, ça implique de se connaître aussi soi-même. Je vois aussi parmi les frères, entre la réalité et leur perception de la réalité, ça colle à peu près. D'autres, il y a une distance beaucoup plus grande. Quand la distance est beaucoup plus grande, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui le voit vivre en même temps. Comme s'il peut, il prend un peu de... Il a aussi la réalité pour réajuster un petit peu ce qui peut être... Sinon, si... Quelquefois, il y a des gens qui se recommandent des conseils de leur père spirituel. Mais le pauvre père spirituel, alors qu'il peut faire ses erreurs et tout ça, mais si on lui dit des choses, et puis lui, ce qu'il comprend de ce qu'on lui dit, si c'est très en décalage de la réalité, ben, il donnera peut-être des conseils complètement erronés. Mais peut-être parce qu'il se trompe, mais peut-être aussi parce qu'on lui a présenté une réalité qui, en tout cas, lui, n'a pas perçu que c'était la même réalité. Donc, il donne des conseils pour une autre situation, finalement. Donc, après, c'est apprendre à se connaître un petit peu, voir si nous, à peu près, ça correspond, ou s'il y a une petite distance. À ce moment-là, c'est mieux, quand il y a une petite distance, c'est mieux d'avoir quelqu'un d'assez proche qui a plusieurs éléments de comparaison, qui peut nous dire... Et qui comprend ce qu'on vit aussi, qui comprend ce qu'on vit. Parce que sinon, les conseils peuvent être un peu, si j'ai complètement dans un autre contexte, peut-être ça sera compliqué. Bien sûr, il faut se sentir compris. Si on va voir quelqu'un qui nous conseille, si on a l'impression qu'il ne nous comprend pas, arrêtons les dégâts. Arrêtons les dégâts, il faut qu'il nous comprenne un minimum. Après, il y a des règles dans la vie spirituelle, quand même, il peut nous dire sans nous connaître, voilà, mais voilà. C'est pas, donc, un conseiller, c'est pas pour un des grands discours qu'on va le voir. Il faut que ça soit vraiment en connexion avec ce qu'on va vivre. Un grand théologien peut être complètement nul pour conseiller les gens. C'est pas d'abord ça qu'on lui demande. C'est d'être attentif à ce que vit la personne, au chemin qu'elle est en train de suivre, et puis de voir qu'est-ce qui est bon pour elle dans cette circonstance précise. C'est pas les grandes théories. Mais un grand théologien peut être aussi un très bon conseiller spirituel, ça n'empêche pas. Mais voilà, il est très bon conseiller spirituel, pas en tant que grand théologien, mais en tant qu'il perçoit bien ce que vit la, et qui peut l'accompagner de manière assez concrète.